messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. De la tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette internationale.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin dans la matinale, nous allons parler d'un événement qui se déroule ce week-end. C'est le 25e salon d'antiquité, brocante et métiers d'art. Ça se déroule à Compiègne, on en parle juste après le générique.
Moi je suis l'homme de demain, car je suis mieux que Jean Gabin. Je suis un dur, un vrai gangster, avec mes dents je prends du...
Ce matin pour m'accompagner, un invité, Patrick Verrier. Bonjour, bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, on va parler donc de l'événement, le 25e salon d'antiquité, brocante et métiers d'art. Vous êtes antiquaire, brocanteur. Quelle est la différence entre un antiquaire et un brocanteur pour les auditeurs qui nous écoutent?
Alors, c'est vraiment, on va dire... Comment développer simplement? Un brocanteur va vendre des objets d'occasion, quelle que soit l'ancienneté, et un antiquaire est normalement tenu de vendre des objets de plus de 100 ans. Mais il y a des antiquaires qui sont spécialisés dans l'art déco et dans les années 50. Donc après, ça n'a vraiment plus lieu d'être. Hormis qu'un antiquaire engage son nom sur 30 ans lors d'une expertise. Un brocanteur ne fait que de vendre des objets d'occasion. Voilà, de seconde main.
Donc l'antiquaire a quand même un avis d'expert, c'est ça, plus voilà, que le brocanteur.
Tout à fait, tout à fait.
Ça fait presque 40 ans que vous êtes antiquaire, c'est bien ça?
Oui, j'ai commencé en 84. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Les objets, les rencontres?
On va dire, c'était de pouvoir se cultiver de façon aussi généraliste sur tout. Savoir un petit peu de beaucoup de choses. Il y avait un ami de la famille qui était antiquaire. C'est grâce à lui que j'ai appris ce métier. Et voilà, ça m'a passionné.
Alors, votre boutique s'appelle Ambre Antiquité. Enfin, votre site s'appelle Ambre Antiquité. Vous êtes attiré par l'ambre, l'objet de l'ambre, ou c'était un clin d'œil? Non, pas du tout.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, c'était juste, il fallait choisir un nom qui sonnait bien, qui était joli. Et voilà, ça a été vraiment le hasard.
Il y a 30 ans, il n'y avait pas encore Internet. Du coup, j'imagine que vous recherchiez dans des livres, dans des fascicules d'exposition, ce genre de choses. Comment on faisait un petit peu son savoir et comment on devenait expert dans une spécialité?
Alors, il y a un peu plus de 30 ans, c'est vrai qu'il fallait avoir une bibliothèque énorme. Il fallait consacrer des jours et des jours de recherche, des fois pour un objet. Après, il faut avoir de la mémoire. Ça s'apprend aussi sur le tas, avec les confrères. Il faut énormément partager son savoir. Et puis, voilà.
Ça a changé un petit peu maintenant avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, on a un peu toutes les infos sur Internet. Il y a des sites qui référencent, par exemple, les ventes qui ont été faites dans les maisons d'enchères, ce genre de choses. Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Mmh. Nous, les professionnels, on fait énormément appel. Maintenant, on a une bibliothèque immense à notre disposition sur une tablette. Donc, c'est extraordinaire. Nous sommes tous abonnés à ces sites, qui sont des sites payants, ce qui est normal. Et voilà.
C'est là où on trouve les codes des artistes, on trouve les dernières ventes,
oui,
etc. C'est ça.
Mm-hmm.
Il me semble que pour qu'un artiste ait une cote, il faut qu'il y ait eu 3 ventes dans le passé, ou c'est une fausse information, ça?
Alors, pour un artiste... Avant, ouais. Oui, effectivement, il y avait un minimum de ventes en salle des ventes pour être inscrit sur certains livres. Maintenant, on va dire que voilà, ça se fait encore plus ou moins. Mais une cote, il y a aussi des cotes, ce qu'on appelle dans le métier, des cotes montées. Alors, vous savez, après, il n'y a que la vente vraiment qui parle.
Voilà. Les cotes montées, c'est quand un acheteur enchérit sur son objet pour qu'il ait une certaine valeur, pour en avoir vendre le suivant au même tarif, c'est ça?
Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que certains peintres qui n'avaient pas de cote ont passé des articles en vente, se sont fait acheter par des amis ou eux-mêmes.
Ou des galeristes.
Voilà, c'est ça. Et ça crée une fausse cote. Mais bon, c'est marginal. Hein. Mais ça existe.
De toute façon, le prix, c'est le prix qu'on veut mettre. C'est pas un prix de marché.
Tout à fait. Voilà. C'est libre. Donc, les enchères, c'est au plus offrant. Donc, après tout, voilà, si les gens en veulent, les prix montent.
Là, vous avez un site internet qui s'appelle ambreantiquité.fr. On retrouve certains objets qu'on peut retrouver en boutique. Vous n'avez plus de boutique aujourd'hui, plus de boutique physique ?
Alors non, je n'ai plus de boutique physique parce que là, les auditeurs ne me voient pas, mais j'ai eu un souci de santé et je suis maintenant handicapé. Donc, c'était trop compliqué avec la rééducation. Je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus. Bon. Mais voilà, j'ai choisi de ne travailler que sur Internet et que sur les salons. Voilà.
Quels sont les objets que vous recherchez ? Les objets classiques ? Alors là, on peut voir des chocolatières en argent, donc de l'argenterie. On voit des vases classiques, on voit des peintures. Quelle est votre spécialité ?
Alors maintenant, on va dire que ma spécialité, ce serait plutôt des objets de petite taille que je peux porter en gardant ma canne à la main. Non, mais tout ça mis à part, non, je suis capable de tout acheter, des successions complètes. Après, les modes changent énormément ces derniers temps, donc il faut s'adapter. Ce qui était vrai il y a un an ne l'est plus aujourd'hui. Donc on est vraiment des opportunistes dans le métier. Voilà.
C'est quoi là, du coup, la mode actuelle ? Qu'est-ce que vous vendez le mieux ? Qu'est-ce que vous vendez le mieux ? Peut-être à Compiègne, parce que j'imagine que chaque territoire a sa particularité aussi.
Oui, tout à fait. Après, il y a des choses qui sont vraiment... Si vous allez dans l'est de la France, il y a des grès particuliers, Rambervillers, etc., qui sont recherchés. Ou si vous allez à Longwy, forcément, vous vendrez plus des émaux de Longwy. Mais au-delà de ça, ça c'est vraiment du régionalisme. Au-delà de ça... Bon, on va dire que la collection, c'est quand même toujours quelque chose de recherché. Alors après, il y a des milliers de thèmes dans la collection. Vous-même, vous êtes collectionneur, donc voilà, c'est très vaste. Voilà.
La particularité, alors vous organisez plusieurs salons, vous organisez un salon à Compiègne, celui qui aura lieu ce week-end, vous organisez également des marchés, des déballages, par exemple on a pu en voir devant l'hôtel de ville de Compiègne, oui, et je crois une fois par mois du coup dans le marché alimentaire.
Oui, c'est ça, oui, le deuxième samedi de chaque mois nous sommes sur la place de l'hôtel de ville, sauf pendant les mois d'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mais ça reprend dès le mois de mars, oui.
Pour les salons, vous organisez celui de Compiègne, celui de Saint-Quentin et celui de Senlis. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois salons ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes vendeurs ? Est-ce qu'il y a des objets différents ? Le fait qu'on soit dans l'Aisne, Senlis, plus proche de Paris ? Peut-être avec des bourses différentes également ?
Alors, on va dire qu'il y a un gros noyau de marchands qui me sont fidèles. On va dire que ça représente à peu près 70% des exposants. Après, il va y avoir 30% de nouveaux marchands suivant les salons. Après, la marchandise ne change guère, parce qu'on est quand même en Picardie, on n'est pas très proche de Paris. Voilà, de belles choses se sont vendues dans les trois salons de façon identique.
Est-ce que, comme dans les bourses au disque, il faut arriver très tôt le matin pour être le premier servi ? Est-ce que les vendeurs achètent entre eux ? Alors nous, c'est toujours un peu la course le matin. Les vendeurs qui exposent vont voir un peu ce que font les collègues à côté pour aller... Alors, ça se fait aussi chez vous ou pas du tout ?
Alors, il est vrai que les objets étant uniques, par définition, sur un stand d'un antiquaire ou d'un brocanteur, donc forcément, une fois qu'il est parti, il n'y en a plus. Donc les premiers servis sont toujours les mieux servis.
Bien sûr. Donc il faut venir à l'aube.
Peut-être pas à l'aube, on ne sera peut-être pas là à l'aube, mais dès l'ouverture, il est mieux de venir dès l'ouverture, oui.
L'installation, vous la faites la veille, comment ça se déroule ? C'est quoi un peu le travail pour organiser un salon à Compiègne ?
Alors c'est un gros job, ça c'est clair, mais bon, au bout de 25 ans d'organisation, je suis un peu rodé, et mes marchands me suivent depuis de nombreuses années, donc ils connaissent mon mauvais caractère, et ça se passe très très bien. On déballe pendant toute la journée du vendredi, il faut une journée complète pour mettre... les 50 stands en place.
Voilà. Ouais, c'est des petits box. Alors chacun a son, c'est
un métrage. Ouais,
c'est un métrage délimité. Ils ont tous le même ou
Non. Les stands vont de 12 mètres carrés à 24 mètres carrés. Ça, c'est le marchand, l'exposant, qui choisit la surface qui lui correspond le mieux.
Est-ce que vous avez vu une évolution là avec l'arrivée à la télévision, par exemple, de l'émission de France 2 ? Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais est-ce qu'il y a un engouement aujourd'hui sur la seconde main, sur l'antiquité, sur les objets ?
Alors, un engouement, peut-être pas, mais en tout cas, un intérêt, un peu plus d'intérêt, ce qui est que mieux. Après, on peut en débattre, aimer, ne pas aimer ce genre d'émission, ça peu importe. L'important, c'est qu'on parle de notre métier et que les gens s'y intéressent à nouveau.
Vous êtes collectionneur personnellement ? Pas trop ?
Pas trop.
Parce que souvent, c'est ça un peu le problème. Quand on est vendeur et qu'on est collectionneur à la fois, la limite, s'imposer des limites, c'est dur.
Non, je n'ai aucun thème de collection. J'ai gardé au cours de ma carrière quelques petits trucs, mais pas forcément des choses de prix, des choses qui me faisaient plaisir. Voilà, c'est tout.
Comment ça se passe si on a, si on a une succession et puis demain on doit vider une maison, un bâtiment, on vous contacte, vous faites une expertise, il faut... Combien de temps ça prend un petit peu pour ce genre de...
Ça peut aller très très vite parce que bien que souvent les gens sont un peu dans l'urgence, voilà, c'est suite à une succession, donc après les gens me contactent dès qu'il y a la vente de la maison, le notaire souvent met un peu la pression. Avec moi, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire que je joue le rôle d'antiquaire, de brocanteur et de débarrasseur. Et en tant qu'organisateur de salon, j'ai sous la main une centaine de marchands qui peuvent répondre à tout.
Vous êtes facilitateur également, donc si vous ne prenez pas, ça sera vendu à d'autres confrères.
Je peux présenter la bonne personne, forcément.
On va écouter une courte pause musicale, on va écouter un extrait musical, ça s'appelle Gaël Faye, c'est Kérosène. On se retrouve juste après, on vous redonne les dates c'est évidemment ce week-end, ça commence à quelle heure du coup samedi?
À 10h du matin samedi, de 10h à 19h.
Et le tarif?
4€ l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Allez, on écoute Gaël Faye, on se retrouve juste après.
Ce soir c'est la pression, je vois le réel de trop près, les insignes des agents, au sol nos silhouettes à la craie, j'ai beau fermer les yeux, je ne m'échappe jamais du ciment, et au loin le chant des sirènes ne vient jamais de l'océan, ici tout a un prix, même lorsqu'on se dit je t'aime, on vit tous dans le gaz, on fait des rêves kérosènes, rêves kérosènes. Mon cœur est sous pression. J'embrasse ton visage cagoulé. Ton âme est une prison. Tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond. Je ne vois rien d'autre que mon reflet. On marche ensemble sans se parler. Des mots tranchants rappent le palais. Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences, savoir les sous-titres. Je veux t'envoler loin d'ici, du ciment, au-delà des forêts de bâtiments. Je t'inventerai. Silence est d'or et la route est sombre. L'existence mort comme un coup de tesson. Je rêve, je dors, je vis sous pression. La ville dehors est comme sous caisson. Un croissant de lune s'éteint et s'allume. Donne-moi l'amour que je n'ai pas eu. Et je t'offrirai ce que tu n'as jamais vu. Un vaste horizon caché derrière le talus. Je veux t'envoler, t'inventer des contrées, t'emmener, t'évader. Au large, au large, au large. Je t'inventerai.
Gaël Faye sur les ondes de Graphite 94.9 pour la matinale. On parle toujours du 25e salon d'antiquité, brocante et métiers d'art à Compiègne qui se déroule ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 décembre. C'est au centre de rencontre de la Victoire, c'est au 112 rue Saint-Joseph à Compiègne. Et les tarifs, c'est 4€ pour toute la journée et puis gratuit pour les moins de 12 ans. C'est entre 10h et 19h, restauration sur place. On est toujours en compagnie de Patrick Verrier qui est l'organisateur de cet événement. C'est les mêmes conditions qu'on peut retrouver. C'est quoi la salle que vous avez à Senlis? C'est la même sorte de salle?
Je prenais le quartier ordinaire à Senlis.
Ok, donc c'est un quartier un peu militaire comme on peut avoir à Compiègne.
Voilà, c'est l'ancien quartier militaire, voilà.
Et là, sur, du coup, sur la troisième ville, là, sur Saint-Quentin,
c'est le palais de Fervacques.
Ah oui, c'est beau.
Mais c'est magnifique.
Mais il y a des marches, là, par contre.
Alors oui, le souci, alors c'est magnifique, mais il y a des marches. Mais alors, par contre, on arrive à faire un salon d'antiquité haut de gamme, là. Là, c'est...
Ouais. Qu'est-ce que viennent chercher vos acheteurs ? Est-ce que vous y a d'ailleurs ? J'imagine que là, depuis presque 30 ans, il y a des acheteurs qui sont réguliers. Qu'est-ce qu'ils viennent acheter ? Est-ce qu'ils viennent acheter des meubles, des petits objets, de la décoration ?
Alors, on va dire que principalement, ça va être l'objet de décoration, le tableau, le bronze, après du mobilier, oui. Et puis toujours la collection, au milieu de la collection, ça attire toujours, voilà.
Donc là, il y a des spécialistes. On va retrouver des vendeurs spécialisés, par exemple, en art de la cuisine, par exemple.
Alors, art de la table, oui. Ouais, il y a deux marchandes qui font de l'art de la table.
Donc là, c'est cuillère, fourchette, coquetier.
Oui, c'est ça, les services de table, voilà. Il y a une marchande qui est spécialiste en luminaire ancien.
Donc là, des pampilles, ce genre de choses ?
Un petit peu de pampilles, ouais. Mais surtout de la lustrerie en bronze et en laiton. Elle a de belles choses, entièrement, en plus, prête à brancher, puisqu'elle refait l'électricité complète, elle remet aux normes complètes ce qu'elle expose. Donc voilà, ça c'est bien, franchement.
Il y a encore d'autres. Est-ce qu'on peut acheter du linge de table ? Je sais qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs, des gens qui cherchent du linge. Alors, du linge ancien, du linge de table.
J'ai une marchande qui fait du linge de table, j'ai une marchande qui fait du bijou. Vraiment, j'ai un marchand qui fait que du tapis. C'est vraiment, j'essaye d'être le plus vaste possible, le plus complet possible. Ne pas avoir des stands linéaires. Si vous passez d'un stand à l'autre et vous retrouvez pratiquement les mêmes bibelots, les mêmes tableaux, aucun intérêt. Donc voilà.
Ouais, souvent chez les antiquaires, quand il y a des salons comme ça, chaque stand est un petit peu un tableau, une composition.
Voilà, il faut créer une ambiance, un style dans chaque stand.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des choses un peu plus modernes, des choses des années 80, oui, 70, du plastique, de la couleur ?
Tout à fait. J'aurai deux stands qui vont être très vintage, justement. Et ça commence à être très recherché.
Ouais, bah maintenant, les gens qui étaient jeunes dans les années 80, ils ont de l'argent aujourd'hui. Ça y est.
Et oui, tout à fait.
Ils peuvent racheter ce qui leur rappelle leur enfance, par exemple.
Voilà.
Du jouet, il y a un peu de jouet également. On sait que,
ouais. Alors, ça, je n'ai pas de spécialiste de jouet. Ouais. J'ai déjà eu lors des salons. C'est vrai que les spécialistes de jouets se tournent plutôt vers des rassemblements plus collectionneurs, parce que la branche est quand même très petite. Donc, il faudrait à ce moment-là avoir une clientèle importante, comme dans une très grande ville comme Bordeaux ou Lyon. Voilà.
C'est quoi, au jour d'aujourd'hui, votre plus belle découverte, la découverte où vous êtes le plus fier ?
Franchement, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Des beaux achats, oui, on en fait tous dans notre carrière, surtout quand elle commence à être un peu longue. Quelques tableaux m'ont fait plaisir, quelques bronzes m'ont fait plaisir, quelques meubles m'ont fait plaisir, mais je n'ai pas un souvenir précis. Voilà.
On a un peu suivi le parcours de Philomène Wolf qui s'occupe du coup de Actéon à Compiègne,
voilà,
donc là, qui vend c'est la vente aux enchères de Compiègne,
oui.
Qui a trouvé un Cimabue, donc c'est un peu un
illustre
très très beau. Ça met un peu de temps avant de faire des recherches, de pouvoir confirmer que c'était bien l'auteur. Ça se passe également comme ça pour vous. Des fois, vous avez des doutes et vous allez voir d'autres confrères pour pouvoir.
Ah oui,
il y a un cycle.
Toujours. Ouais. Alors là, il faut rester très humble dans notre métier. Il faut savoir faire appel, voilà, aux bonnes personnes, savoir faire ses recherches soi-même au départ. Et il est vrai que Philomène a une très bonne expertise et elle a trouvé ce tableau. Et c'est très très bien.
Ça a trouvé de la vie, ça. Hein.
Ah oui,
ça a trouvé une carrière.
Oui, hein. Indéniablement. Je lui en souhaite d'autres, mais il est vrai que ça, c'est la trouvaille d'une carrière.
Ce qui est toujours intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est que le tableau était accroché entre la cuisine et le salon, un petit peu perdu, et qu'il aurait pu se retrouver à la recyclerie de Marny, tout simplement.
Ah, complètement. Complètement. Mais là, c'est très très pointu, hein. Hormis la bonne expertise de cette commissaire Fraser, voilà, c'est vraiment l'expertise complètement aboutie, elle l'a donnée à d'autres personnes qui ont
fait une vraie recherche.
Ouais. Oui, bien sûr.
Ouais, ils ont regardé les derrière si ça correspondait.
Tout à fait, la veine du bois, tout. C'est très complexe après. Hein.
Là, aujourd'hui, avec une période un peu difficile, est-ce que les gens viennent plus facilement vendre leurs bijoux, les bijoux de famille, l'or qui reste un petit peu au fond des tiroirs ou vous n'avez pas vu de différence avec avant ?
Non, je n'ai pas vu de différence. Ça, c'est toujours assez linéaire, on va dire.
Là, on va vous retrouver ce week-end. Ensuite, c'est quand les prochains salons entre Saint-Quentin et Senlis ? C'est à quelle période ?
Eh ben, avec les périodes que nous avons connues du Covid, là, c'est un petit peu au ralenti. Je vais relancer le salon de Saint-Quentin dans le courant 2022. Mais normalement, c'était toujours vers avril. Je suppose que cette année, ça sera un peu plus tard dans le courant de l'année. Mais alors...
Les inscriptions sont souvent closes, vous êtes complet rapidement, ou alors les vendeurs qui vont peut-être écouter cette émission peuvent vous contacter ?
Alors, on peut toujours me contacter, mais il est clair que je donne d'abord priorité aux marchands ayant participé l'année précédente, ce qui est normal. Après, si, on va dire qu'il y a toujours un turnover aux alentours de 10-20% maximum. Donc, il y a toujours des places qui se libèrent pour les nouveaux arrivants.
Et là, sur la géographie, ils viennent d'où, du coup, ces vendeurs ? C'est des gens du coin ? C'est international ? C'est
alors,
frontalier ?
50% viennent de la région Picarde, on va dire. Après, le reste, ça vient de toute la France. J'en ai qui traversent la France pour faire mes salons. J'en ai qui viennent de Belgique. J'en ai un qui vient de Suisse. Voilà.
Il n'y a pas de définition, ce n'est pas le vendeur d'à côté.
Non, bah, forcément, ceux de la région essayent de venir, mais voilà.
Il y a eu récemment l'ouverture de la maison des brocanteurs à Péronne. Vous avez été y faire un tour ?
Oui, j'ai été y voir des confrères. Ouais. Il y a pas mal de confrères qui sont là-bas et j'ai été les saluer.
C'est le principe d'un salon, mais en permanence, en fait. Chacun a son box avec des vendeurs en commun.
C'est un peu ça, ouais.
Qu'est-ce qu'on pourra manger lors de ce salon ? Parce que souvent, les visiteurs nous disent « on va manger un petit bout quand même ».
Oui, alors là, il y a toujours un traiteur qui fait « on a le bar et le coin restauration ». Beaucoup de clients, déjà, il faut nourrir tous les exposants.
Bien sûr.
Et beaucoup de clients déjeunent et passent une grosse partie de la journée dans notre salon. Après, vous donnez le menu. Ça, c'est le traiteur qui
gère. Oui, mais c'est du traiteur, ce n'est pas du sandwich, c'est du traiteur.
Ah oui, c'est vraiment un repas traiteur. Oui, oui, tout à fait.
Vous avez en 2009 organisé les premières puces compiénoises. Est-ce qu'elles vont réavoir lieu cette année ? Je crois que l'année dernière, avec le Covid, ça ne s'est pas fait.
Voilà, tout à fait, oui. Ça, c'était à la demande des commerçants de Compiègne, les 3V. Je leur ai organisé ça. Et puis cette année, ça a été à nouveau au mois de juin. Grande réussite. Voilà, plein de monde en ville. Et oui, après, s'ils ont envie d'arrêter cet événement, bon, on l'arrêtera, mais ça serait dommage d'arrêter un truc qui marche très très bien.
Là, c'est différent. Du coup, les objets qu'on retrouve, on peut retrouver des objets un peu moins chers que sur le salon, un peu plus abordables. Est-ce qu'on s'adresse à une partie
là, oui, effectivement, ouais. si vous cherchez un meuble marqueté, une commode particulièrement jolie, ça m'étonnerait qu'un marchand l'emmène pendant 2 jours en extérieur. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus sérieux de le mettre soit en boutique, soit sur un stand de salon.
Ouais, là, ça c'est le moment d'acheter des produits pour l'extérieur, des vases, des petits...
Oui, tout à fait, aussi. Mais bon, j'ai un marchand qui est spécialisé dans tout ce qui est jardin. Donc, il a des bancs de jardin, tout le mobilier de jardin en métal, tout le mobilier de jardin en pierre reconstituée. Donc, oui, oui.
Vous allez voir un peu chez vos clients où est-ce qu'ils mettent les objets quand ils vous achètent quelque chose. Vous les livrez parfois ?
Alors, ça arrive qu'on livre, effectivement. Mais après, je vais vous dire un adage un peu bête, mais à chacun son mauvais goût. Donc, chacun en fait bien ce qu'il veut de ce qu'il achète. Voilà.
Non, mais des fois, c'est intéressant de voir un petit peu la vie de l'objet. Ensuite, où est-ce qu'on va le mettre ? Est-ce qu'il va être
mis... Oui, alors ça, oui, effectivement. Sur les objets, on va dire, qui me sont chers, auxquels je me suis un peu attaché, j'aime bien savoir qui va l'acheter, comment, pourquoi, est-ce que ça va devenir ? Oui. Mais bon, avant tout, je suis un commerçant depuis presque 40 ans, donc...
Par ailleurs, en parlant commerce, comment ça se passe pour les paiements ? Est-ce que les gens, le jour de votre événement, ils pourront payer par chèque ? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? C'est quoi un petit peu la règle dans ce genre d'événement ?
Alors, ils peuvent payer par chèque, par carte bleue sur la plupart des stands. Après, ça, c'est au gré à gré
du vendeur. Entre
le vendeur et l'acheteur. Moi, je ne peux pas imposer de règles sur les stands.
Et là, sur les achats, pareil, comment ça se passe ? Vous payez comptant ? Vous payez, il y a M plus 1, plus 2, vous payez un mois, 2 mois ? Comment ça se passe quand il y a de la marchandise qui rentre chez vous ?
Alors, moi, je paye toujours comptant. Ça, c'est... Alors après, c'est selon... Il y a des lois à respecter. On ne peut pas payer au-delà de 1 000 euros en espèces. Mais sans ça, c'est payé comptant le jour de l'enlèvement.
Là, il me semble que vous avez récupéré une belle collection de BD, c'est ça ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, j'ai acheté une très belle collection de BD il y a quelques mois. BD vraiment vintage des années 70-80. Et moi qui aime un peu la BD, je vais vendre cette collection, mais je veux d'abord en profiter un petit peu et en lire un petit peu. Voilà.
C'est quoi en volume ?
En volume, il y en a 700, donc chaque caisse fait une trentaine de kilos. Il y a 11 caisses, je crois, donc ça fait un peu de poids.
Là, c'est la première fois que vous achetez une collection de BD ou c'était déjà arrivé dans le passé ?
C'est déjà arrivé dans le passé.
Ouais.
Mais là, aussi belle et aussi vintage, aussi marquée, 70-80, non, jamais.
Quel est l'objet le plus atypique que vous avez pu acheter dans votre carrière ?
Le plus atypique ?
Ouais, vous êtes dit, ça c'est quand même étrange, je vais le prendre, mais c'est étrange.
Là, comme ça, encore une fois,
j'aurais dû vous envoyer des questions avant de...
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai acheté des milliers de choses dans toute ma carrière. Et je n'ai aucun... moi, je suis vraiment commerçant avant tout. J'aime les objets, mais une fois que c'est parti, quoi, c'est tout. Il faut passer à autre chose.
Faut regarder votre livre de douane, alors, c'est ça ?
Ah, le livre de police.
Ah, c'est ouais. Le livre de police,
ouais. Ouais, tout à fait.
Donc, tous les objets qui arrivent dans la boutique rentrent dans un livre de police et quand ils sortent, c'est ça ?
Oui, c'est obligatoire dans notre métier, où le nom du vendeur figure, le numéro d'achat, le prix. Comme ça, ça évite le recel. Voilà.
Bien sûr. Quel est le conseil que vous donnerez à un jeune vendeur ? Alors, quel âge on peut commencer à s'intéresser aux objets comme ça, quand on veut être vendeur ?
Alors, on peut s'y intéresser le plus tôt possible. Après, pour être vendeur, il faut
avoir 18 ans, bien sûr.
Alors, bien sûr, mais après, il faut avoir un extrait cabis. Donc, on peut l'avoir dès l'instant où on est majeur. Voilà. Après, il n'y a aucun... Bien sûr, s'installer à 18 ans, il faudrait vraiment avoir déjà un gros savoir, ce qui est quand même rare à 18 ans, à moins d'être fils de marchand et d'être tombé dans le chaudron des petits. Mais voilà. Après, il faut avoir envie de se documenter, d'être un chineur, d'être un chercheur, voilà.
D'être curieux,
ouais.
Et bien ça tombe bien, puisqu'on se définit comme une radio curieuse. Et bien je vous propose d'être curieux en musique. On écoute une reprise, c'est Cannonball, et c'est le titre du groupe Tenard. We'll be right back.
me sens vraiment. Moi je vois.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men.
Je vois tous les trous que tu fais dans le mur le soir quand il est tard.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Ton poing se casse en traversant le mur. Trop de colère et de tristesse. Mauvais mélange dans le système. L'herbe n'est pas toujours assez puissante. Adrénaline dans les veines, veines, veines. T'as pas besoin de ça pour dormir. T'as juste besoin de miel et de verre, veines vertes. D'accord, l'enfer c'est les autres. Sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. T'as fermé les yeux. 10 jours après, t'étais toujours seul dans le même plumard. On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos. C'était déjà trop rempli dans ta tête. Et maintenant y'a ton ex-copine. On a tellement peur que ça explose. Ça sert à rien de mettre la télé fort. Ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle. C'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort. Sauf que c'est tout l'inverse quand elle est folle. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone, c'est la décharge d'une piqûre de méduse. Oh. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un homme.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un homme.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un
Ouais, t'es con quoi. Pourquoi tu tapes dans le mur? Tu vas juste faire mal, hein. T'es con?
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. T'es pas Logan, t'es pas Wolverine. Tes plaies ne se referment pas toutes seules. Son nouveau mec serait mort de rire. Mais lui et elle, on les baisse. Viens, on arrête de parler d'eux. Y'a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les bleus. Ok, t'aimes pas le foot, quel monde de merde. Et patati, et patata. Et tu viens plus aux soirées. T'aimes pas ta vie, t'es pas d'attaque. Tu pensais à une autre quand vous le faisiez. Aujourd'hui, tu donnerais tout pour revoir son fessier. T'es genre de connard qui a du mal à se contenir. Et moi je suis genre de connard qui veut dire que la vie continue. On est là, deux connards, l'un qui parle, l'autre qui pleure. Le cœur en flamme, sauf qu'il peut. Un zéro pour le mur.
Un zéro pour le déni. T'as pas de deuxième pour pas d'armure.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Croyez quoi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un homme.
Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men.
Faible comme un homme.
Ton passé te rappelle, tu vas finir par décrocher. Ton passé te rappelle, tu vas finir par décrocher.
X-Men avec ce titre de l'homme pâle sur les ondes de Graphite 94.9, c'est la matinale. On est encore ensemble, on parle évidemment du 25e salon d'antiquité, brocante et métiers d'art de Compiègne. Ça se déroule ce week-end, c'est à partir de 10h. C'est 4 euros l'entrée et on est toujours en compagnie de Patrick Verrier, l'organisateur. Vous êtes épaulé de combien de personnes pour pouvoir monter les stands, etc.
Alors, mon fils me donne un coup de main. Et après, ben, les stands, il n'y a pas grand-chose en réalité.
C'est des gris caddies, c'est ça?
Ce sont des gris caddies, mais là, mes marchands se servent eux-mêmes. C'est-à-dire
d'accord,
que
okay.
Là, c'est au sol et chacun doit en prendre deux. Le nombre de tables, les tables sont déjà, s'il en faut, sur les stands. Mais au-delà de ça, ce sont des... Ils arrangent leur stand comme ils l'entendent.
Ouais, souvent ils ont déjà en plus déjà le matériel de.
Oui, ils ont déjà leur paroi, leur table, leur chevalet. Oui.
Qu'est-ce que c'est un métier d'art?
Alors les métiers d'art, ce sont vraiment des artisans, mais en rapport direct avec les antiquités. C'est-à-dire que il y a une restauratrice de faïence, il y a un restaurateur de tableaux, il y a un orfèvre, quelqu'un qui restaure l'argenterie. Il y a, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Ébénisterie, du coup, pour réparer les meubles ouais.
Oui, il y a un ébéniste, il y a un luthier, il y a un réparateur d'horloges. Voilà, ce sont, on va dire, une petite dizaine d'artisans, mais ayant un métier en rapport direct avec les antiquités.
Donc en fait, on n'est pas obligé de venir seulement acheter, on peut venir faire réparer ces objets, prendre contact avec des réparateurs, c'est également ça.
Pour après demander un devis et faire réparer l'objet en question.
Si on a un objet un peu qu'on tient ou qu'on a l'impression qu'il a de la valeur, est-ce qu'on peut le ramener ce jour-là ou vous êtes trop occupé avec vos vendeurs et vous n'avez pas le temps pour faire l'expertise?
Ça, on en fait toujours plus ou moins, bien sûr. Ouais. Il y a toujours, on est toujours sollicité. Les gens, ils ont bien raison, s'adressent à nous et puis ils vont écouter une expertise. Ils peuvent aller sur un autre stand, demander une autre expertise. Et puis voilà, il n'y a aucun problème.
Il y a une pub qui est parue dans le magazine Aladdin. Aujourd'hui, il existe plusieurs magazines de brocante et également d'antiquité, comme Brocante Magazine, ce genre de choses. C'est toujours important, le papier, pour votre profession?
Alors, surtout dans Aladdin, qui est vraiment le support, on va dire, le leader dans notre métier depuis de nombreuses années. Et faire une grosse publicité, une grosse com chez eux, franchement, c'est utile.
C'est une belle vitrine,
oui. Oui, c'est une belle vitrine.
Ouais, souvent, ils font des dossiers spéciaux sur un thème bien spécial, etc.
Oui, tout à fait. En plus, c'est un journal relativement intéressant. Les dossiers sont bien traités. Et, oui.
Vous visitez d'autres salons, d'autres bourses. Est-ce que vous avez une bourse préférée ou un salon préféré? Est-ce qu'il y a d'autres confrères qui organisent et puis vous aimez bien ces...
Alors, il est vrai que moi, j'aime bien le déballage de Rouen. C'est un beau déballage. C'est à la fois entre le déballage professionnel et le salon. Et ils sont très nombreux, hein. Ils sont plus d'une centaine à déballer. Là, on y passe une grosse journée. Après, moi, je participe au déballage de Reims, au
Boulingrin.
Déballage de Douai.
C'est ça, c'est dans la halle Boulingrin, c'est
ouais,
ça
ouais. Boulingrin, ouais. Ou à Douai, c'est au parc Expo Gaillan. Ce sont des grosses manifestations où on est à chaque fois plus d'une centaine. Et voilà, ça, ce sont des expos que j'aime.
Ouais, Boulingrin, c'est une pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est un marché en fait, un
oui,
marché
c'est
couvert.
Un marché couvert des années 30, très art déco, rien que le bâtiment est sublime.
Super beau. Ouais, et puis allez acheter aussi vos légumes, vous pouvez trouver des bonnes truffes de Reims.
Tout à fait, parce que ça sert vraiment de marché les autres jours. Ouais.
Et sur la côte, est-ce que vous allez un peu plus loin? Est-ce que vous allez sur la côte
Oui, ouais. De temps en temps.
À Deauville, je pense, Deauville, Trouville, tout
oui,
ça.
Deauville, ouais. Je déballais pendant un bon bout de temps aussi à Deauville, au salon, au Touquet. Oui, ça m'arrive. Oui.
C'est quoi le plus dur dans le métier? C'est les kilomètres avalés, le poids porté. Qu'est-ce qui est le plus compliqué?
Alors, c'est vrai que les kilomètres, voilà, se lever très très tôt, être sur place à 8 heures du matin, ça veut dire que si vous avez 3 heures de route, eh ben, il faut partir à 5 heures, donc se lever très très tôt.
Ouais, c'est ça un peu le problème. C'est pareil pour la brocante de disques, c'est un peu la même chose, quoi.
Voilà.
Faire des kilomètres, porter des disques, rentrer des bacs, sortir des bacs.
Mais vous savez, un antiquaire, en gros, c'est un déménageur, sauf que lui, il vend ce qu'il a. Mais on a vraiment un métier de déménageur.
Vous faites le tour un petit peu des solderies, mais des recycleries. Est-ce qu'ils vous appellent quand ils ont des objets intéressants?
Un petit peu, oui, effectivement. J'ai quelques contacts, donc ils m'appellent de temps en temps quand ils ont soit un objet intéressant, soit un doute, et ils aimeraient en savoir un peu plus sur quelque chose. Oui.
On rappelle les dates, c'est ce week-end, c'est donc le samedi 4 décembre et dimanche 5 décembre. Ça commence à 10h, ça finit à 19h. C'est 4 euros l'entrée et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il y a de la restauration sur place, évidemment. 50 exposants. Qu'est-ce qu'on peut dire encore qu'il y a... Est-ce qu'il y a un site internet? Il y a une page Facebook où on peut retrouver toutes les informations?
Oui, il y a une page Facebook dédiée au salon qui s'appelle Salon Antiquité, Brocante et Métiers d'Art de Compiègne.
On mettra tout ça sur internet, sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cet événement.
Merci à vous.
On vous souhaite bon courage pour demain et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon après-midi, vous retrouverez l'émission en podcast sur internet. Bonne journée et à bientôt.
Merci.
Messieurs les producteurs de...